Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui a dit ça? Ok, Dieu a dit ça, ça c'est une bonne réponse. Okay. C'est Moïse. En Lévitique 19, verset 18. Regardez, page 136 dans nos Bibles rouges, dans l'Ancien Testament. Évidemment, c'est aussi des paroles que Jésus a prononcées. Je vais dire, c'est juste un verset. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Qui a enseigné d'aimer son ennemi? Jésus, bien sûr, mais Moïse encore. On l'a vu la semaine dernière dans une application très pratique. Vous vous souvenez? Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener. Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme, aide-le quand même à délester son âne. Exode chapitre 23, versets 4 et 5. Donc là, on a deux textes tirés de la loi donnée par Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton ennemi. Alors, on continue notre série dans le livre de l'Exode. Et on en était arrivé au moment où Dieu s'engage par alliance. Il dit, vous serez mon peuple précieux. Et voilà comment vous allez vivre. Et ces textes-là, de loi, devraient nous intéresser. Parce qu'ils contribuent à nous révéler qui est Dieu. C'est ce que j'ai commencé de développer la semaine dernière. Oui, en lisant l'Ancien Testament, y compris des textes de loi qu'on ne choisirait pas pour notre méditation quotidienne, habituelle, eh bien, on découvre qui est Dieu et quelle est sa volonté pour nous. Car toute l'Écriture, tous les écrits sacrés, et pour Paul qui a écrit ce texte-là, c'est l'Ancien Testament dont il est question. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, on avait vu les semaines passées comment la loi de Dieu, telle que résumée dans les 10 commandements, elle s'est trouvée explicitée dans les chapitres qui suivent, les chapitres 20 à 23, dans ce qu'on appelle le code de l'Alliance, qui est une sorte d'application concrète de ces 10 commandements, ces 10 paroles de Dieu, une application pour la vie courante de l'époque. Et nous nous étions posé la question, mais que faire de ces chapitres qui nous donnent en détail des lois sur les esclaves, des lois sur le sabbat, des lois sur ce qui arrive si mon bœuf, il encore mon voisin, etc. Prêter de l'argent sans intérêt, ok, qu'est-ce que je fais avec tous ces textes-là qui me paraissent déconnectés de ma vie d'aujourd'hui en fait? Et la réponse que j'avais avancée, c'est qu'en creusant un peu dans ces lois données par Dieu, on apprend qui est Dieu et ce qu'il désire. On avait vu dans les lois sur les esclaves, comment on peut y voir que Dieu attache une importance inestimable à l'être humain. Si un homme s'est vendu comme esclave, parce qu'il est dans une extrême pauvreté, pour payer ses dettes, il faudra le traiter avec respect si tu es son maître. C'est pas ta propriété dont tu disposes n'importe comment. Déjà, au bout de 7 ans, il rentrera libre chez lui. Ce n'est pas un objet. Et si tu le maltraites, tu seras puni. Tu encours des sanctions. Si tu frappes ton esclave, tu lui casses une dent, il partira libre. Tu ne fais pas ce que tu veux. Donc on a vu cet exemple et quelques détails qui montre le grand respect de Dieu pour la vie humaine. Chaque être humain, en effet, est créé en image de Dieu. Il est infiniment précieux. Et c'est la raison pour laquelle les atteintes envers les personnes sont sévèrement punies dans la loi de Moïse. Par la peine capitale, même. Et ceci contraste grandement avec d'autres lois du Proche-Orient ancien, de l'époque, qui sanctionnaient parfois plus sévèrement les fautes à l'égard des biens. Mais ce n'est pas le cas dans la loi de Dieu. Elle nous fait découvrir Dieu, elle nous enseigne, elle nous éduque, elle nous redresse. Je vous invite à prendre encore un nouvel exemple. avant de poursuivre dans ce développement sur la loi de Dieu pour nous aujourd'hui, mais un autre exemple qui nous enseigne sur un sujet très précis, à nouveau c'est des cas très précis. Prenons ensemble dans Exode chapitre 22, versets 15 et 16. Il est écrit « Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de la lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. » Un peu spécial de prêcher là-dessus, mais remarquons d'abord qu'il n'est pas ici question d'adultère. Si c'est question d'adultère dans la loi de Moïse, c'est passible de mort. Donc on ne parle pas de ça ici, c'est pas ça. Notez aussi à l'époque de Jésus l'hypocrisie des chefs religieux qui viennent et qui jettent aux pieds de Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais on ne sait pas où est l'homme. C'est juste la femme. Et notez, quand on dit l'adultère est puni de mort, dans la loi de Moïse, il faut plusieurs témoins pour condamner quelqu'un à mort. Donc, prendre quelqu'un en flagrant délit dans ces conditions-là, c'est pas aussi facile. Okay. Voilà. Juste pour remettre un peu dans le contexte. Mais ici, en fait, il y a aussi une question économique dans notre texte, parce qu'il y a une question de dot. Alors, il faut toujours lire un texte dans son contexte. La dot, c'est cette somme d'argent que le jeune homme va payer pour prendre pour épouse la jeune fille. Pourquoi ? Parce que la jeune fille, en fait, c'est une force de travail dans la maison, et que donc, pour la prendre pour épouse, il faut verser la dot. Et donc ici, si cet homme, ce jeune homme, il séduit une jeune fille, couche avec elle, en fait, il est plus ou moins en train de faire du vol, il est en train de voler la dot. Mais il y a aussi évidemment une question de sexualité avant le mariage. Dans le contexte de l'Antiquité, et en Israël en particulier, les fiançailles étaient très importantes. Au moment des fiançailles, la dot était déjà payée, donc il y avait cette partie légale qui était accomplie. Mais on attendait le mariage pour consommer le mariage. En Israël, il n'y avait pas de décision privée de vivre ensemble. On s'installe, etc. Ça n'existait pas, ça. Les relations sexuelles n'appartiennent pas ailleurs que dans le mariage. Donc, à l'époque, en Israël, on ne couche pas à droite, à gauche, comme si c'est quelque chose d'anodin. Il faut que l'homme assume la responsabilité de ses actes. Notons que le père pouvait refuser d'accorder le mariage au jeune homme, donc c'était engageant de consommer la sexualité, mais ce n'était pas non plus encore le mariage. Mais ça nous dit que c'est quelque chose de très sérieux. Ça nous enseigne quelque chose. L'acte sexuel est une question sérieuse. On ne traite pas les filles comme ça. La loi de Dieu ici nous enseigne quelque chose aussi, que l'acte sexuel n'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est vraiment contre-culturel de dire ça de nos jours, au XXIe siècle, j'en ai conscience. Mais d'après la Bible, la sexualité, c'est un beau cadeau de Dieu. C'est un beau cadeau de Dieu, c'est son idée. Et si le sexe est donné, c'est pour se vivre dans un cadre de confiance, un cadre d'engagement réciproque, de sécurité. Parce que c'est quelque chose de très intime, on se donne. Et dans ce cadre, le sexe, la sexualité est une bénédiction. S'il est vécu, s'il est travaillé dans un esprit de partage, d'amour, de réciprocité, d'écoute, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais quand on met les choses dans les ordres, comme dans le cas qu'on a vu ici, dans ce texte de loi, il y a des conséquences néfastes, des problèmes, des blessures, des déceptions. Ah, c'est contre-culturel de lire ça aujourd'hui. Je dézoome de ce texte-là, c'était un autre exemple pour nous montrer ce que Dieu nous enseigne en arrière-plan de chacune de ces lois très, très spécifiques. Que la sexualité est quelque chose d'important, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de précieux. Mais de manière générale, est-ce que nous avons l'assurance que ce que Dieu nous commande, c'est bon pour nous ? Et dans notre conception moderne, dès qu'on parle de respecter la loi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu très positivement. Ouais. La loi est vue comme une sorte de cadre qui peut-être contraint nos vies, quoi que ce soit. Mais avons-nous conscience que la loi de Dieu est bonne pour nous ? Dans le psaume 1 qu'on a lu tout à l'heure, « Heureux l'homme qui met toute sa joie dans la loi de l'Éternel pour la suivre. » il est enraciné dans ce que Dieu veut et Dieu est présent. La loi de Dieu est bonne. Et en réalité, je vais vous taquiner un peu en disant cela, mais la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés pour la loi, en quelque sorte. Paul dit dans sa lettre à son collaborateur Tite, « Notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne, et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes, à accomplir la loi, autrement. » Notre grand Dieu et Sauveur a payé le prix de notre esclavage, cet esclavage du péché, pour nous purifier, pour nous amener à l'honorer, à respecter sa loi. Je reprends maintenant un peu comment Sylvain Romerovski, professeur à l'Institut biblique à Nogent, développe cette question du rôle de la loi, du rôle de la loi pour nous aujourd'hui si nous sommes chrétiens. Il souligne que la Bible nous enseigne que si nous sommes chrétiens, nous ne vivons plus sous le régime de la loi, ce régime qui cadrait cette alliance de Dieu, cette ancienne alliance avec son peuple d'Israël. Nous ne sommes plus sous ce régime de la loi. Ce régime de la loi se caractérisait par deux éléments en particulier. Le régime de la loi, c'est d'obéir au commandement de Dieu pour obtenir la vie. Si tu veux la vie, obéis au commandement. Un deuxième élément, c'est que pour cela, eh bien, l'homme est laissé à ses propres ressources. Ça, c'est le régime de la loi. Respecte la loi, tu auras la vie, mais en même temps, tu es laissé à tes propres ressources pour cela. Donc, dans la nouvelle alliance, le chrétien n'est plus sous ce régime-là, c'est le régime de la grâce. On y viendra un petit peu plus loin dans notre message. Mais ceci étant dit, la loi reste la référence pour nous. Jésus lui-même a dit dans l'évangile selon Matthieu, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi, mais pour l'accomplir. » Dans la loi ou les prophètes. « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ses commandements, comme disait Olivier tout à l'heure, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Mais au contraire, celui qui obéira à ses commandements et les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Paul, qui écrit aux chrétiens à Rome, ceci, « La loi elle-même est sainte, et le commandement saint, juste et bon. » Alors le chrétien, lui, le résumé de la loi, hein, comme Jésus l'a exposé, c'est de vivre dans l'amour, amour pour Dieu, amour pour les autres. Le chrétien doit vivre dans l'amour, le contenu de la loi, c'est l'amour. Mais c'est la loi qui définit en quoi consiste l'amour. Quand il dit « tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin, sa femme », c'est ça aimer son voisin. Vous voyez, à chaque fois que la loi développe, elle est en train de nous expliquer ce que c'est qu'aimer son voisin. Bah, aimer son voisin, c'est que tu ne vas pas le voler. Tu ne vas pas porter un faux témoignage contre lui, etc., etc. Donc, en quelque sorte, aimer et obéir à la loi, c'est équivalent. Jean, dans l'une de ses lettres, dans la première lettre de Jean, il écrit « car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. » Si j'aime Dieu, je suis ses commandements. Paul dit aussi dans sa lettre aux Romains, « Aimer son prochain, c'est accomplir toute la loi. » Sylvain Romerovski pose encore cette question, mais y a-t-il opposition entre obéir à la loi et être libre en tant que chrétien? Opposition entre obéissance à la loi et liberté chrétienne? Et il note à juste titre, mais l'esclavage dont la Bible parle, c'est celui du péché. La libération, c'est celle du péché. Et la vraie liberté, c'est donc d'être libre pour obéir à la loi de Dieu. c'est d'être libéré de cet esclavage du péché, cette addiction au mal qui est ancrée dans notre nature, qui a été corrompue. C'est être libéré pour obéir désormais à la loi de Dieu volontairement, par amour, par reconnaissance. Jésus a dit « Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » On voit bien, l'esclave, c'est celui du péché. Et Jacques lui-même appelle la loi de Dieu la loi de la liberté. Il dit « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Ça reprend un peu le psaume 1 en quelque sorte. La vraie liberté, c'est celle d'obéir à la loi de Dieu. Alors Paul parlera du fait que nous sommes libres par rapport aux prescriptions rituelles de la loi. En particulier tout le système des sacrifices. Il va expliquer, on pourra le développer ultérieurement, mais toutes ces prescriptions rituelles avaient un caractère qu'on appelle typologique, c'est-à-dire... elle représentait comme une ombre de la réalité, c'est souvent une image que Paul utilise, toutes ces lois rituelles étaient comme une ombre de la réalité qui se trouve en Jésus-Christ. Nous n'obéissons plus aujourd'hui à la loi sur les sacrifices, mais cette loi sur les sacrifices nous enseignait quelque chose. Elle nous enseignait que le mal doit être puni. On parle d'expiation en théologie. Le mal doit être expié. On n'obéit plus à ces lois sur les sacrifices, mais cette loi nous enseigne que le sacrifice permet l'expiation. Il fallait qu'il y ait un animal qui paye symboliquement. C'est symbolique. Mais il fallait le sacrifice parfait. Et en quelque sorte, Sylvain le présente comme ça, il dit... En quelque sorte, on obéit à cette loi sur les sacrifices en nous attachant au sacrifice de Christ, en fait. Si nous sommes attachés au sacrifice de Christ, il a payé le prix de nos fautes. Alors, il faut relever ici, évidemment, un piège subtil, le piège du légalisme. Le légalisme, c'est croire qu'on peut mériter l'approbation de Dieu. On peut mériter le salut de Dieu en obéissant à sa loi. Et ça, la Bible nous montre que c'est illusoire. On pourrait même imaginer qu'en adoptant une manière de vivre chrétienne, Dieu nous approuve. Vous voyez, j'ai décidé, je vais à l'église le dimanche, je donne ma dîme, les 10% de mes revenus, je décide de lire ma Bible chaque jour, etc. En pensant mériter l'approbation de Dieu, en pensant mériter son pardon ainsi, en pensant mériter peut-être sa faveur, ou même des réponses à ses prières, dire, mais voilà, regarde tout ce que je fais, regarde tout ce que je fais, tu me dois bien ça, entre guillemets. Vous voyez cette logique du légalisme, qui revient un peu à réduire la vie chrétienne au devoir, en faisant un peu abstraction de cette relation que Dieu veut avec nous. Au contraire, l'obéissance à Dieu doit être motivée par la reconnaissance pour la grâce qu'il nous a manifestée, par amour pour Dieu. Jamais en pensant que Dieu va nous approuver ou nous sauver parce qu'on fait ceci ou cela, parce qu'on s'attache à respecter ceci ou cela de la loi de Dieu. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Il est illusoire de s'attacher à pratiquer toutes sortes d'œuvres bonnes, possibles et imaginables si notre cœur n'y est pas. Ou si on se permet de pécher librement dans d'autres domaines de notre vie. Dans un texte que je vais lire dans un instant, on voit le peuple de Dieu qui s'attache à faire des sacrifices, mais de l'autre côté pratique toutes sortes d'injustices, injustices sociales en particulier. Et là, Dieu montre que ça, c'est incohérent. Mais pour nous aujourd'hui, ça pourrait être d'un côté être très spirituel, attaché à la lecture de la Bible, venir à l'église, etc. Mais de l'autre côté, je vis avec quelqu'un avec qui je ne suis pas marié. Ou... Oui. on n'achète pas Dieu en disant, ah, regarde, de ce côté-là, ça va, de ce côté-là, bon, on regarde pas trop, là, par là. Et c'était déjà ainsi dans l'Ancien Testament. Écoutez ce que déclare Dieu par la bouche de son porte-parole Ésaïe à un peuple dont le cœur n'est pas à lui. Le texte est très fort, écoutez bien. « Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices ?» dit l'Éternel. « Car je suis rassasié des holocaustes de béliers. » Les holocaustes, c'est des sacrifices entièrement consumés. « Des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. » On donnait aussi la graisse dans les sacrifices. « Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. » Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats, aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux, car vos mains sont pleines de sang. Je me cache les yeux, vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Vous voyez, Dieu dit, on ne peut pas m'acheter, vous venez, vous faites des sacrifices. Mais à côté, vous faites n'importe quoi, vous détournez sciemment de moi. Ah, je ne veux pas voir vos sacrifices, je ne veux pas écouter vos prières. Changez votre cœur, purifiez-vous, revenez à moi. Et c'est ça qui est magnifique dans le message de la Bible. C'est qu'il est toujours possible de revenir à Dieu. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente, qu'il se détourne et qu'il vive. C'est dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours voulu ça. Change ton cœur, tourne-toi vers moi. Donc ça, c'était une parenthèse sur le danger du légalisme, de croire que parce qu'on obéit à certaines choses de la loi ou qu'on fait certains rituels, Dieu nous approuve, Dieu nous sauve. Une autre parenthèse, juste pour nos discussions avec... Nos amis musulmans, certains puisent dans ces textes-là pour dire « Votre Dieu ne veut pas de sacrifice. » Or, tout Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, est fondée sur le sacrifice de Jésus qui nous octroie le pardon. Ils disent « Regardez, votre Dieu ne veut pas de sacrifice. » On a bien lu le texte ensemble. Ce n'est pas le problème des sacrifices ici. Le problème, c'est l'hypocrisie. Bien sûr que Dieu veut des sacrifices, il a demandé des sacrifices. Fermez la parenthèse. La loi de Dieu, elle est bonne, elle est sainte. La loi de Dieu, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre cœur rebelle. Autrement dit, le problème, c'est notre péché qui s'attache à nous, notre nature corrompue. Et la loi ne fait que révéler le péché. Elle est comme un miroir. Si vous mettez face au miroir le matin, vous voyez que vous avez une mèche de cheveux comme ça, un bouton sur le nez ou quoi, ça met en lumière le problème. C'est pas le miroir le problème. Ici, la loi, c'est comme le miroir. C'est pas la loi le problème. Le problème, c'est notre impureté, c'est notre cœur rebelle, révolté contre Dieu, qui veut pas le suivre, qui veut faire casse à tête. Et la loi, elle est bonne, mais elle ne nous donne pas de solution. Elle nous révèle que nous sommes injustes, mais elle nous laisse ensuite sans ressources pour la suivre. Elle nous fait prendre conscience qu'on n'est pas si blanc que neige. Elle nous montre, autrement dit, notre incapacité à vivre saintement, à vivre d'une manière sainte comme Dieu est saint, pur. Et ce faisant, elle nous révèle le besoin d'un sauveur. Quand on lit la loi de Dieu, on prend les 10 commandements juste. Comme on les 10 commandements, le premier, le deuxième. Faisons la liste, miroir, face à nous, on voit qu'on est grillé. La loi de Dieu, quand on la lit, quand on écoute Jésus nous redire la loi de Dieu, la relisez l'évangile selon Matthieu chapitre 5, où Jésus nous redit la loi en soulignant son esprit, l'esprit de la loi. Jésus reprend là, par exemple, on vous a dit, vous ne commettrez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, si vous convoitez avec vos yeux une femme, vous avez déjà commis l'adultère avec elle. Ok, c'est ça l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, il commence là, dans nos pensées, dans notre cœur. Donc, c'est encore plus exigeant que de ne pas commettre l'adultère, ça. Hein. On peut y arriver, mais imaginez, même dans vos pensées, des pensées pécheresses, Jésus nous dit, c'est déjà désobéir à la loi de Dieu. Alors, quand on lit ça, c'est John Stott, je crois, un théologien anglais, qui dit ça quand on lit ce texte de Jésus, là, dans le Sermon sur la montagne. On devrait s'écrier « Seigneur, sauve-moi !»« Seigneur, sauve-moi !» quand on lit cette loi. Et c'est la raison pour laquelle la loi de Dieu est bonne, on a vu tout ce qu'elle peut nous apprendre, mais la loi de Dieu nous conduit à Christ. Et Paul, dans ses lettres aux chrétiens, nous dit qu'elle a été comme un pédagogue pour nous mener à Christ. La Bible du Semeur traduit « La loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ. Hein, » Le pédagogue, c'est celui qui était une sorte de précepteur qui s'occupait des enfants. C'était aussi une forme de surveillant. C'est pour ça que la Bible du Semeur traduit « C'est comme un gardien chargé de nous conduire. » Mais la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. La loi nous prépare pour venir à Christ. La loi nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Christ. Et Christ, lui, a parfaitement accompli la loi de Dieu. Et il a fait l'expiation de nos fautes. Il a payé pour nos fautes, autrement dit, par le prix de sa vie. Et tout cela par amour pour nous. Dieu a toujours été à la fois un Dieu de sainteté, d'amour, de justice. Il n'y a pas cette idée du Dieu de l'Ancien Testament qui serait le Dieu en colère, le Dieu qui juge, et le Dieu du Nouveau Testament qui est gentil, bisounours, etc. C'est pas ça. Il a toujours été le même, il ne change pas. Il est saint, il est aimant, il est juste, il est éternel. Ce que la Bible nous enseigne. Et Dieu a toujours été constant dans le fait qu'il est disposé à octroyer son pardon, à purifier son peuple lui-même. Mais le moyen dans l'ancienne alliance, celle dont il est question là dans ce livre de l'Exode, le moyen de ce salut, de ce pardon, n'avait pas encore été révélé. Il y avait une progression dans le projet de salut de Dieu, et ça passait par la révélation de sa loi dans une alliance qui nous conduirait jusqu'au Christ. Dieu a toujours été constant, il est disposé, il est prêt à octroyer son pardon. C'est dans sa nature. Et vous voyez le texte que j'ai lu tout à l'heure chez Isaïe, qui est très dur. Hein. Je me bouche les oreilles quand vous priez. Je me cache les yeux. Qu'est-ce que vous faites dans mes parvis? Pourquoi vous venez au temple? Pourquoi vous me faites vos sacrifices? Juste derrière. J'ai pas lu la fin du texte. Mais je vais vous la lire. Après avoir dit ça, qu'il leur demande de changer, de se purifier, il dit: venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Dieu est prêt pour pardonner vos fautes. Vous revenez à lui, revenez à lui. Venez, on va discuter ensemble. Je vais vous pardonner vos péchés. C'est ce Dieu de la Bible. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Comment un peuple qui ne suit pas la loi de Dieu pourrait-il obtenir le pardon? Comment pourrait-il obtenir le pardon? Comment les exigences de justice et de sainteté de Dieu pourraient-elles être satisfaites? La Bible nous répond: par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, dont la vie livrée en sacrifice à la croix paye le prix de nos transgressions à la loi de Dieu. Respecter la loi de Dieu, vous savez, c'est normal. Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui et pour l'honorer, le suivre, c'est juste la normalité. c'est juste la normalité, mais la corruption est entrée dans ce monde et on n'y arrive pas. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on contrevient à la loi parfaite de Dieu, nous sommes sous une peine, nous encourons une peine de mort. Et cette peine de mort, c'est Jésus-Christ qui l'a payée. Et on revient à notre point de départ. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Mais c'est ce que Christ a fait. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui du jugement à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, parce qu'il est mort et ressuscité, il est vivant. Voyez-vous, il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il a aimé son prochain. Il a aimé ses ennemis. D'après ce texte-là, ses ennemis, c'est nous. À cause de nos fautes, on se rend ennemis de Dieu, en fait. Et ce que la loi était incapable de faire, dit encore Paul, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction concours de péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, il s'adresse à des chrétiens non plus, à la manière de l'homme livré à lui-même, livré à ses propres ressources, mais dans la dépendance de l'Esprit. La loi comme pédagogue qui nous mène à Christ, qui nous sauve par sa grâce. Nous sommes sauvés par sa grâce, c'est une faveur imméritée. Et nous y avons accès par le moyen de la foi, en croyant que Jésus-Christ est bien celui qui a fait ce que nous étions incapables de faire et qui a réglé le problème de nos fautes vis-à-vis de la loi de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pour vivre à la gloire de Dieu, pour vivre la loi, mais cette fois-ci grâce à l'assistance de son esprit, l'assistance de son esprit qui nous habite. Et c'est ça ce qui est merveilleux dans cette nouvelle alliance, sauvé par la grâce de Dieu, avec la loi gravée dans notre cœur, son esprit qui est donné à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui est venu pour nous donner le pardon et la réconciliation.